Bonjour, c'est la première fois qu'on me demande de prêcher sur un passage précis et je m'en réjouis. C'est une bonne chose. Je m'appelle Martin Bracker, ça se prononce Brecker, mais vous pouvez dire Bracker, vous pouvez juste m'appeler Martin, c'est encore mieux. Donc, comme l'a dit Eric, je suis pasteur à l'église de Liège, votre église sœur, qui se trouve aussi très près du centre-ville, une ville un peu plus petite, et qui est aussi en travaux avec beaucoup de sens uniques. Ça, c'est pour ma présentation. J'ai hésité, quand j'ai lu ce passage, j'ai hésité à donner un petit coup de fil à Olivier ou à Eric, à dire, parce que j'ai appris que vous avez déjà étudié le reste du chapitre. Je me dis, j'aurais peut-être aimé savoir dans quel sens ils avaient été, pour ne pas commencer à envoyer des messages contradictoires. Et puis, j'ai décidé de ne pas le faire. Parce que je pense que nous avons la même ligne théologique par rapport à ce passage. Et aussi parce que je me suis rendu compte que ce qui importe le plus dans 1 Corinthiens 14, c'est les principes qui s'en dégagent. Je propose donc de lire la suite de votre prédication, votre série de prédications textuelles suivies. Donc nous allons partir du 1 Corinthiens 14 à partir du verset 26 et jusqu'au verset 40, jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 14, 26 à 40. Que faire donc, frères ? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation ? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue ? Que deux ou trois au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises, destin que les femmes se taisent dans les assemblées. Ne clippez pas ça, hein, d'accord ? Car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qui est dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire pour quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue ? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, car que tout se fasse avec bienséance, avec ordre. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est utile pour instruire, pour corriger, pour conduire dans la justice. Instruis-nous, Seigneur, aujourd'hui par ton esprit, s'il y a quelque chose que nous devons apprendre. Corrige-nous par ton esprit aujourd'hui, Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie. Et conduis-nous dans ta justice et pas la nôtre. Oui, Seigneur, c'est en au nom de ton Fils Jésus que nous avons prié. Amen. Structure de ce message, je n'ai pas fait de PowerPoint, mais c'est une structure très simple. Deux points et chaque fois trois sous-points. Le premier point, ce sont les contentieux. Et le deuxième point, ce sera les principes. Donc il y aura trois points contentieux et trois principes. Le premier contentieux, on va mettre celle-là derrière nous, comme ça on peut passer à la suite. Le rôle des sœurs. L'autorité de la parole va revenir très souvent dans l'approche de ce texte. Et c'est un principe fondateur de notre Église, et je sais que c'est un principe fondateur de cette Église. Mais pour exprimer une idée, il faut utiliser un certain nombre de phrases. Pour comprendre une idée, il faut écouter toutes les phrases. C'est une manière un peu détournée pour dire qu'il faut faire attention au contexte. Parfois dans la Bible, on trouve des commandements qui sont absolus. C'est comme ça et pas autrement. Parfois dans la parole de Dieu, on trouve des commandements qui sont dans un contexte culturel. Il y a quelque chose de la culture de l'époque qui fait en sorte que le commandement, ce que Dieu demande, se passe d'une certaine manière. Et puis parfois, certains passages ont un contexte historique. Donc il s'est passé quelque chose autour des gens qui recevaient cette lettre pour la première fois, qui fait que ça a été écrit de cette manière. Et quand il s'agit du rôle des femmes, le rôle de nos sœurs dans l'Église, il y a plusieurs passages qui parlent et à chaque fois le contexte est légèrement différent. Celui de 1 Timothée 1,12 par exemple, où il dit « Je ne lui permets pas d'enseigner, de dominer sur l'homme, mais de garder une attitude paisible », là c'est un commandement qui est dans un contexte absolu, puisqu'il parle de la création, il parle de la chute. C'est pour ça que, selon moi, et selon vos anciens aussi, il est tout à fait justifié dans nos églises de réserver les rôles de prédicateurs, de pasteurs, d'anciens aux frères. Puis un autre passage en 1 Corinthiens 11, qui dit que la femme doit garder la tête couverte et ne pas se couper les cheveux. Dans ce cas-là, je ne sais pas ce qui a été dit quand ça a été prêché ici il y a quelques semaines, quelques mois. Je vais dire ce que moi je pense, on aura un débat après s'il faut. Mais là, on est dans un contexte culturel. Vous voyez, je suis venu avec mon épouse qui a les cheveux courts. Et on accepte ça. C'est parce qu'il y a un contexte culturel. À Corinthe, à l'époque, les cheveux courts avaient toutes sortes de connotations négatives que Paul ne voulait pas dans l'Église. Mais c'est un contexte culturel qui n'existe plus. C'est pour ça que, voilà, on ne va pas imposer toutes ces choses. Venons maintenant au texte d'aujourd'hui, 1 Corinthiens 14. On va le relire. Et puis, il y a un contexte historique dans ce cas-ci. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvenant pour une femme de parler dans l'église. Et une chose qui est claire quand on lit faites tout l'épître de 1 Corinthiens, c'est que c'était le bazar à Corinthe et dans l'église de Corinthe. Et une partie de ce désordre, et je dis bien une partie de ce désordre, c'était dû à certaines épouses qui faisaient irruption pour des choses qui pouvaient très bien être réglées à la maison. Il faut savoir que dans les sociétés hellénistiques, c'était une société hellénistique, Corinthe, l'éducation formelle n'était que pour les garçons. Il n'y avait que les familles très très riches qui pouvaient engager un esclave pour enseigner, qui pouvaient donner une éducation aux jeunes filles. Et puis, les femmes à Corinthe n'avaient que très peu d'instruction. Et celles à qui Paul adresse avaient visiblement des époux qui étaient en mesure de leur expliquer les choses qu'elle ne comprenait pas. Quand on prend ces données tous ensemble, quand on regarde tout ça ensemble, je crois qu'on peut sans aucun problème aujourd'hui autoriser nos sœurs à s'exprimer dans l'église pour lire un passage, chanter, exprimer une prière. Nous pouvons tous être bénis, édifiés par cela. Le deuxième contentieux, la prophétie. Quand on pense prophétie, On pense souvent à prédire l'avenir. Et c'est un peu la prophétie qu'on voit dans Seigneur des Anneaux, Star Wars, etc. C'est ce que les gens pensent. Et en effet, il y a une trentaine d'années, il y a une dame dans l'église que je fréquentais à l'époque, à l'église de Woluwe, qui avait dit qu'elle avait une prophétie. Et elle est allée voir les anciens. Elle a dit aux anciens, une certaine prophétie. Les anciens se sont dit, oui, ça a l'air d'être de venir de Dieu. Et ils ont décidé d'en parler, comme quoi cette église allait être bénie et que de cette église allaient sortir des prédicateurs de la parole, des évangélistes, des prophètes. De cette église, il y a quand même eu Paul Évry qui est sorti, et moi-même. Je ne sais même pas si Paul est au courant de ça. Mais c'est quelque chose qui est arrivé. Mais je pense que la prophétie, c'est bien plus que ça. En tout cas, quand on regarde ce qu'il y a dans la parole de Dieu. Florent Varac, que nous allons rencontrer d'ici un mois, il explique que la prophétie est un des mots qui a un très large champ sémantique. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, un champ sémantique, c'est les significations différentes que peut avoir un mot tant qu'on reste dans la même, et on reste tout le temps dans la même idée. Et il parle de deux types de prophéties. Il parle de la prophétie de révélation et la prophétie d'exhortation. La première, la prophétie de révélation, c'est celle où Dieu parle, où Dieu donne quelque chose de nouveau, et que Dieu donne par la bouche d'un prophète, quelque chose qui a valeur d'autorité. Et cette première forme de prophétie est aujourd'hui, je le pense, révolue. Dieu nous a révélé, par la bouche de ses prophètes et par ses apôtres, tout ce dont nous avons aujourd'hui besoin pour le connaître lui et pour connaître son dessein. Tout est dans sa parole. Nous n'avons pas à y ajouter ou à retirer quoi que ce soit. Donc la prophétie dont il est question dans ce texte, où il dit, hein, si quelqu'un a une prophétie, ben, qu'il parle un à la fois, et pas plus de deux ou trois, etc. C'est le deuxième type de prophétie. Donc c'est de l'ordre de l'exhortation, de l'illumination, de pouvoir mettre le point sur... mettre la lumière sur un passage et de dire comment ça doit nous parler aujourd'hui et comment ça doit nous influencer aujourd'hui. J'ose espérer que ce que Eric a fait tantôt, ce que moi je suis en train de faire maintenant, c'est ce genre de prophétie-là. Les prières que vous avez exprimées lors du moment de prière ouverte peuvent aussi être une forme de prophétie dans ce sens-là. C'est l'Esprit de Dieu qui nous illumine, qui nous permet de saisir notre péché, de saisir sa grâce, et il le fait par l'intermédiaire des saints. Et tout chrétien peut être le canal de Dieu pour mettre l'emphase sur un point en particulier, en fonction de ce que l'Assemblée a besoin d'entendre. Et on peut voir aussi que Paul accorde une grande valeur à ce ministère-là, et il désire que ça fasse partie de nos rassemblements. Le troisième contentieux, celui des langues. Alors encore une fois, il faut distinguer deux types de langues. Il y a les langues humaines, français, l'anglais, néerlandais, etc. Et puis il y a ces langues inconnues que des gens se mettent à prononcer quand ils sont ou quand ils pensent qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. La première fois qu'on parle de langue dans la Bible, c'est dans Actes 2. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger, qui arrivent et ils entendent les apôtres parler des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Ils ont entendu l'évangile. Quelque part, c'est aussi un signe, parce que jusque-là, le salut, le ministère de Jésus avait été pour les Juifs. D'ailleurs, quand des gens de langue étrangère, quand une langue étrangère était parlée dans un pays, ça voulait dire que le pays avait été envahi. Les langues inconnues, c'était une forme de jugement. Mais ici, tout d'un coup, certains ont dû penser, ah, il y a des langues inconnues qui sont parlées. Il y a peut-être le jugement, mais cette fois-ci, c'était différent. C'était un signe comme quoi l'évangile était maintenant disponible pour toutes les nations, pour toutes les langues, même ceux qui venaient de beaucoup plus loin. Il y a deux autres mentions de gens qui parlent en langue dans le livre des Actes. À chaque fois, il s'agit d'un signe comme quoi ils avaient vraiment reçu le Saint-Esprit. Mais dans toutes ces mentions, il n'y a absolument rien qui indique qu'il ne s'agisse pas de langue humaine, de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit et qui commençait à adorer Dieu ou proclamer Dieu dans une langue qu'il n'a pas apprise. Ça a l'air d'être plutôt ça. Et puis on arrive en 1 Corinthiens 14 et là on a une petite indication qu'il pourrait s'agir d'une langue inconnue, priée par l'Esprit. Quand il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu. Ça ne me plaît pas trop de critiquer nos frères charismatiques, mais je dois un peu parler de mon vécu. Parce que j'ai fait partie d'une équipe qui rendait visite à des églises pour faire un peu de marketing, etc. À l'époque où je travaillais dans l'émission. Donc j'ai visité plus d'une centaine d'églises. Et beaucoup, c'était des églises charismatiques. Et il y en avait beaucoup qui faisaient, quelques-uns qui faisaient tout tourner autour du parler en langue. Et j'ai assisté à des dizaines de cultes où tout tournait autour du parler en langue. Et dans ces dizaines de cultes, seulement deux fois, il y a eu quelqu'un qui a interprété ce qui avait été dit. Et une des deux fois, il y a eu deux interprétations qui se contredisaient. Peut penser, ou bien au moins un des deux était faux. Peut-être tous les deux, je ne pouvais pas évaluer ça. Nous venons de lire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Là, ce serait injuste de ma part de m'arrêter là, parce que ces mauvaises expériences que j'ai eues n'éclipsent en rien les gens extraordinaires que j'ai côtoyés dans ce milieu-là. Il y a une église qui m'a accueilli les bras grands ouverts pendant mes études à Londres. Il y avait un petit groupe qui m'avait un peu pris sous leur aile quand j'étais très jeune, quand on faisait de l'évangélisation dans les rues. Et puis il y a aussi eu deux hommes, quand j'ai passé par une période difficile, quand j'étais en Afrique du Sud, il y a deux hommes qui ont fait 2 heures de route pour venir m'encourager. Je dois quand même mentionner cela. Personne ne me dira que Dieu n'a pas utilisé toutes ces personnes. Maintenant, si on regarde l'ensemble des textes qui parlent de ce que c'est de parler en langue, on doit constater ceci. On n'en parle pas beaucoup. La plupart du temps, c'est clair qu'il s'agit de langues humaines, que quelqu'un comprenait. Et puis les quelques fois où il pourrait s'agir de langues inconnues, il y a beaucoup de mises en garde qui sont mises. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète, il faut que ce soit à la fois. Il y a des gens qui sont à l'aise avec ce genre de choses. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Et je me suis, le Seigneur m'a fait comprendre que mon rôle, le rôle qu'il m'avait demandé à moi d'exercer, c'est de créer une église ou de servir dans une église, parce que je ne l'ai pas créée, les choses étaient déjà, mais de servir dans une église où les gens qui ne sont pas à l'aise avec ça puissent être dans une église où ils se sentent bien. Ils ont le droit à ça et c'est comme ça qu'ils peuvent bien recevoir la parole. C'est comme ça qu'ils peuvent bien servir le Seigneur. Quand on voit qu'on en parle très peu, et quand on en parle, c'est avec beaucoup de mise en garde. Je sais, je le sais, avec notre liberté en Christ, nous n'attristons pas Dieu quand nous disons pas de ça ici. Si dans votre camp de culte individuel, il vous arrive de parler en langue parce que vous parlez au Seigneur et que ça vous aide comme ça, ça c'est un autre propos. Parce que ce passage, 1 Corinthiens 14, est en train de parler de quand l'Église locale se rassemble. L'assemblée, les rassemblements de l'Église locale, c'est quelque chose qui a énormément de valeur aux yeux de Jésus, aux yeux des apôtres. La parole de Dieu en parle énormément et y accorde beaucoup d'importance. Après les contentieux, je pense que maintenant nous pouvons regarder au principe, parce que c'est en regardant au principe qu'on peut vraiment se laisser guider dans nos choix. Le premier principe, c'est l'évaluation. Le verset 29. Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres évaluent leur message. Puis le verset 32. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Aucune parole d'homme ne peut se prétendre d'autorité. Dieu m'a dit que. Souvent, ça veut dire Dieu me l'a dit, alors toi, tu n'as pas le droit de dire le contraire. Toi, tu te tais. Parfois même, quand on dit Dieu m'a dit que, c'est porter déjà à l'avance un jugement sur toute personne qui ne serait pas d'accord. Toute parole qui sort de la bouche d'un homme doit être évaluée par les autres. Ce que je dis ici est ouvert à évaluation, absolument. Il y a un bon nombre de dangers qui guettent les églises. Et un de ces dangers, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes sont ceux qui propagent des enseignements en prétendant qu'ils viennent de Dieu, alors qu'ils ne font rien d'autre que d'égarer les enfants de Dieu. Et l'Église doit se doter de responsables qui sont capables de repérer ces erreurs et de les dénoncer. Dans ce passage, je vois que c'est la responsabilité des responsables, mais pas seulement. Je pense que personne ne peut complètement s'abroger cette responsabilité de rester vigilant et de se laisser guider par le Seigneur. Il paraît que l'encre des billets de banque est un petit peu plus épaisse que toutes les encres qu'on trouve dans le commerce ou dans l'industrie. La différence n'est que 0,02 mm. Mais, il paraît, je ne l'ai pas essayé, mais la plupart des êtres humains sont capables de repérer une différence de 0,02 mm avec le doigt. Ce que ça veut dire, j'ai pas de faux billets pour pouvoir le tester, mais il paraît que si je vous donne à chacun d'entre vous un vrai billet, un faux billet, vous allez pouvoir repérer la différence rien qu'en les palpant. Et dans le temps, avant toutes les techniques qu'on a aujourd'hui, les employés de banque, à longueur de journée, comptaient des vrais billets. Et le jour où un faux billet se glissait dedans, ils pouvaient tout de suite sentir « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce billet-là ». Et c'est la même chose avec nous. Pour pouvoir repérer le mensonge, il faut être bien versé dans la vérité. Et c'est pour ça que les disciplines spirituelles, la lecture de la parole, la prière, sont tellement importantes. C'est d'être bien ancré dans la vérité, d'être ferme dans la vérité. À un tel point que quand le mensonge arrive, il y a une espèce d'alarme qui se déclenche. On ne sait peut-être pas tout de suite qu'est-ce qui ne va pas, mais on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si la responsabilité d'évaluer vous fait peur, soyez tellement habitué à la vérité que quand le mensonge essaye de se frayer un chemin, l'alarme de l'esprit s'enclenchera en vous. Le propre des prophètes de mensonges, c'est la force du langage. Ils nous disent les choses parfois avec tellement d'assurance. Ah, ils ont l'air tellement sûrs d'eux qu'ils doivent sûrement avoir raison. Mais ce qui arrive souvent, c'est que on se dit, ah, il y a quelque chose, il est en train de me dire quelque chose. Il le dit bien, il le dit avec force, il a l'air sûr de lui, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas toujours à mettre le doigt dessus, tout de suite. Et comme on n'arrive pas à exprimer ce qui ne va pas, ben on se dit, ah ben, sûrement qu'il a raison. Bien, c'est quelque chose pour lequel nous devons faire attention. Nous ne devons pas dire oui tout de suite, parce que la plupart d'entre vous, vous allez être parfaitement capables, si vous attendez un jour ou deux, si vous priez, si vous consultez, si vous réfléchissez, vous allez pouvoir repérer ce qu'il y a de mensonge dans la bouche des prophètes de mensonge. Par la grâce de Dieu, Dieu nous permettra de les repérer, de les éviter. Et si c'est notre rôle, de les dénoncer. Toute prophétie doit être évaluée. Deuxième principe, l'ordre. Un jour, quelqu'un m'a vu lire ma Bible à un camp. Tout le monde lit sa Bible dans les camps d'église. À la maison, quand personne ne voit, parfois c'est autre chose. Mais un jour, quelqu'un m'a vu lire ma Bible pendant un camp d'église. Il me disait, tu lis quoi? J'étais justement en train de lire 1 Corinthiens. Puis il m'a demandé un peu ce que j'en pensais. Je dis, oh, il est sévère, c'est quand même dur tout ce qu'il dit. Et puis le gars m'a répondu, ouais, mais à Corinthe, c'était le boxon. C'était le bazar à Corinthe. Il était en train de parler des comportements. Je crois que vous avez dû assez bien, en long et en large, étudier les mauvais comportements qu'il y avait à Corinthe. Mais le problème était aussi dans les moments où ils s'assemblaient. Ça ressemblait à rien. Si Paul a estimé qu'il fallait mettre des règles en place, c'est parce que c'était carrément le contraire qui était en train de se passer. Les gens parlaient tous en même temps. Personne ne s'écoutait. Ils parlaient en langue de tous côtés, c'était interminable, avec tout le monde qui voulait son moment. Et quand une personne de l'extérieur arrivait, on voit plus tôt dans chapitre 14, ben ils se demandaient où ils étaient atterris. Ils sont complètement barjots ici. Et c'est à ce moment-là qu'arrive verset 33 et le verset 40. « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Verset 40. Mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. J'aime beaucoup ces versets, parce que ça colle à mon tempérament. Bon. Mon bureau n'est pas toujours en ordre, ce n'est pas par rapport à ça, mais c'est par rapport à mon utilisation du temps. J'aime quand il y a de l'ordre. Quand je vais faire une balade, moi, j'aimerais bien savoir où on va et quand on revient. On va y aller, on verra. Pas pour moi. Le shopping pour le cauchemar des papas. Moi, je supporte, mais à une condition. C'est qu'on sache ce qu'on va prendre. Voilà. Ce costume, quand j'ai été l'acheter, j'ai passé 10 minutes dans le magasin. Certaines personnes diront que c'est une honte pour le shopping, mais voilà. Et voilà, quand on me dit il y a des bonnes, c'est les soldes, il y a des bonnes affaires, on va voir s'il y a quelque chose qui te va bien. Ah non, ça je n'en veux pas, moi. C'est pour ça que j'aime beaucoup, parce que c'est pas sage. Parce que quand je vais dans une église, en tout cas chez nous, c'est fort similaire ici. Je sais qu'il va y avoir des chants, Je sais qu'il va y avoir des exhortations. Je sais qu'on va lire la parole de Dieu, qu'il va y avoir des prières. Il va y avoir une prédication, il va y avoir une sainte scène. Et si on refait la même chose tous les dimanches, juste en changeant les chants évidemment, et les thèmes aussi, très important, moi ça me va. Et visiblement, c'est le genre de choses que l'apôtre Paul nous demande de faire. Ici, je ne parle plus d'autorité, je vais maintenant donner une appréciation personnelle. Parce que je pense qu'il est important de créer des bonnes conditions pour qu'un culte soit efficace. Qu'est-ce que ça veut dire un culte efficace? Ça, c'est le troisième point. Vous pouvez noter, cocher, mettez une épingle, on va y arriver. Mais tout d'abord, je veux parler des conditions pour qu'un culte soit efficace. Un instituteur, une institutrice, en classe, il demande le silence. Pourquoi ? Ben, il va avoir du mal à faire progresser ses élèves si on est dans une ambiance de brocante. Je vais être un peu moins spirituel, si vous me permettez. Pour une minute. C'est promis, je redeviens spirituel après, hein. Ne vous inquiétez pas. J'ai étudié un petit peu, je me suis un peu creusé les idées, le monde des discours. Et un discours qui doit être, qui a pour but de convaincre, d'inspirer, d'instruire, ben il va pas être très efficace s'il est donné lors d'un banquet. Si tout le monde est assis à table, ou bien en train d'attendre la nourriture, ou après, quand c'est un peu n'importe quoi sur la table, et les gens sont venus parce qu'ils voulaient manger, parce qu'ils voulaient rencontrer des gens, parce qu'ils voulaient rigoler un bon coup, avoir un discours là-dedans, ça ne va pas être très efficace. Non, les discours vont être plus efficaces quand ils sont dans un espace dédié, comme une salle de conférence. Tout ça pour dire que, visiblement, le Saint-Esprit a voulu que les conditions soient bonnes pour nos rencontres. Et il nous a donné cette injonction dans sa parole inspirée. Faites les choses convenablement et avec ordre. Quand il y a de l'ordre, du coup, on peut mieux respecter le troisième et dernier principe. Le troisième principe, l'édification. Verset 26, que faire donc, frères et sœurs? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se fasse pour l'édification. Puis le verset 31, en effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre afin que tous soient instruits, que tous soient encouragés, tous soient édifiés. C'est quoi l'édification? Un édifice, c'est un bâtiment. Donc c'est tout simplement la construction d'un bâtiment. Cette image avec le bâtiment est très utile pour comprendre ce principe de l'édification. Nous sommes tous des bâtiments en chantier. Je connaissais un pasteur qui disait tout le temps « en chantier » quand il nous disait bonjour, parce qu'il disait qu'il n'était pas encore accompli. Mais nous sommes tous en chantier. Le Seigneur est à l'œuvre pour poursuivre la construction. L'Église locale existait, existe toujours comme un outil dans les mains de Dieu pour poursuivre cette construction. Tout ce qui est dit, tout ce qui est fait dans nos réunions doit servir à poursuivre la construction qui est en cours dans chacun de nos vies. Le passage d'aujourd'hui nous dit que tout ce qui se fait quand nous nous rassemblons doit contribuer à cet objectif. Et c'est pour ça qu'il insiste qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de gens qui s'expriment, Parce que quand il y a trop de matière, il y a moins qui rentre. Il y a moins qui édifie. C'est pour ça qu'il insiste sur le fait qu'on fasse avec ordre. Parce que sinon, on n'entendra rien si tout le monde parle en même temps. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une interprétation. Parce que si on ne comprend pas ce qui est dit, évidemment, ça ne va pas contribuer à notre édification. Et ce que je viens de dire là, ben ça fonctionne tout aussi bien si on est en train de parler de langue humaine, français, néerlandais, allemand, etc., que si on parle de langue inconnue, que l'esprit, compris par l'esprit, une langue que personne ne connaît. S'il n'y a pas d'interprétation, ben ça n'apportera rien à toute une série de personnes. Récemment, lors d'un de nos moments de prière, une de nos sœurs s'est mise à entamer un chant en lingala. Et une douzaine de personnes connaissaient très bien le chant, connaissaient les harmonies. Les musiciens le connaissaient. Ils se sont tous mis ensemble. C'était magnifique. C'était vraiment beau. J'aimais beaucoup ce que j'entendais. Et d'ailleurs, je me suis dit, la région où on parle le lingala, c'est à 6000 km d'ici. C'est le signe comme quoi le salut a été donné aux nations. Puisque moi, en tant que francophone non-juif, j'ai droit au salut. Et nos frères et sœurs de la région de Kinshasa, Angola, aussi ont reçu le salut. C'est magnifique. Problème. J'ai aucune idée de ce qu'elle disait. Et justement, je venais de recevoir 1 Corinthiens 14. Olivier venait de m'envoyer le passage sur lequel on m'a demandé de prier. Donc, j'étais en méditation par rapport à ça. Et j'ai été voir la sœur. Et je lui ai dit, c'était absolument magnifique, mais ce serait bien si on reste en français. Parce que tous ceux qui parlent le lingala dans notre église parle parfaitement le français. Et si on chante en français, si tu lances quelque chose en français, nous pouvons tous être bénis, nous pouvons tous être édifiés par cela. Si on a quelqu'un qui ne parle pas le français, il faut trouver quelqu'un pour traduire. Si personne ne peut traduire, ben, cette personne ne pourra que s'édifier lui-même. Je ne vois pas ceci comme de l'insensibilité. Je vois cela comme étant de l'obéissance à la parole. Autre chose par rapport à l'édification. L'édification, ce n'est pas seulement se faire du bien. En effet, je peux être édifié en recevant du réconfort. Je peux être édifié en étant ressourcé dans ma foi, dans ma vie. Mais je peux aussi être édifié si quelqu'un envoyé par le Seigneur me dit « Martin, tu ne peux pas continuer comme ça. » Ça ne fait pas du bien à entendre, mais c'est de l'édification. Revenons à cette image d'un édifice. Si on construit un édifice, si le mur n'est pas d'aplomb, il faut démonter et redémarrer. Autrement, il continuera à partir de travers. Ce n'est pas mon genre de balancer, mais aujourd'hui je vais le faire. Parce qu'il y a des gens, quand ils disent « je suis édifié », on comprend très vite qu'ils sont en train de dire « j'ai entendu ce que j'avais envie d'entendre ». Il y a des vérités gênantes, il y a des vérités embarrassantes, il y a des vérités douloureuses. Et certaines personnes, quand on leur dit les vérités douloureuses, ils vont dire dans tout le pays que cette église-là, c'est une église qui juge. Et Pour beaucoup de gens, c'est la pire insulte qu'on peut faire à une église qui juge. Pourtant, la parole de Dieu peut être très dure pour beaucoup de choses et on peut être édifié en entendant des vérités embarrassantes, en entendant des vérités douloureuses. Il faut les dire. Évidemment, il ne faut pas le dire dans le but d'embarrasser les gens. Il ne faut pas le dire dans le but de faire mal aux gens. Non, il faut le dire pour, dans le but d'aller vers une vie qui est un édifice pour le plaisir de Dieu. Que tout ce qui se passe dans nos rassemblements nous édifie. Quand on édifie un bâtiment, il devient plus beau, il devient plus grand, il devient plus solide. Et que dans nos rassemblements, tout ce qui se passe puisse contribuer à cela dans nos vies, que nous puissions devenir plus beaux alors que nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ. Que nous puissions devenir plus grands alors que nous nous nourrissons du lait non frelaté de la parole. Et que nous puissions devenir plus forts quand par la grâce de Dieu, il nous construit pour aller vers de plus en plus de stabilité spirituelle. Que tout ce qui se passe dans nos rassemblements nous édifie. Prions. Seigneur notre Dieu, je me trouve ici dans une église que je connais un peu, mais je ne sais pas comment se passe le rassemblement, je ne sais pas comment se passe toutes ces choses. Je vois que l'ordre est certainement quelque chose qui a été bien conduit toutes ces années. Je vois aussi qu'il y a toute cette évaluation. On juge tout par rapport à la lumière de la parole. Seigneur, je veux vraiment prier pour que tout ce qui se passe dans ce bâtiment, dans ces rassemblements, puisse contribuer à l'édification de tout un chacun. Seigneur, que nous puissions devenir des magnifiques édifices à ta gloire, des magnifiques édifices qui servent pour accomplir ta volonté. Seigneur, que nous puissions être rendus plus beaux, plus grands, plus forts. Seigneur, je te prie pour que chaque personne ici présente puisse faire un petit pas aujourd'hui pour encore plus te ressembler. Je te prie pour que chaque personne ici puisse faire un petit pas aujourd'hui pour grandir. Tu dis, nourrissez-vous du lait non frelaté de ta parole, pour que par elle vous puissiez grandir si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Nous avons goûté que tu es bon, que ta parole nous fasse grandir. Que les gens qui parlent à partir de ta parole ici, les prophètes, ceux qui viennent au micro, ceux qui s'expriment, puissent le faire selon ta volonté et pour l'édification de l'Église. Et Seigneur aussi que tu puisses rendre tout un chacun plus fort, faire un petit pas vers plus de stabilité spirituelle. Seigneur, la vie du chrétien n'est pas toujours facile et tu es à côté de nous. Seigneur, par ta grâce, nous te demandons cette force que nous pouvons recevoir de toi. Te demandons tout cela au doux nom de ton Fils Jésus. Amen.